Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et je vous invite à prendre vos Bibles afin de lire le texte de la prédication ainsi que les trois textes complémentaires. Donc comme chaque dernier dimanche du mois, nous allons poursuivre dans l'évangile de Marc, au chapitre 15, des versets 33 à 41, qui sera le texte principal. Marc 15, des versets 33 à 41. À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Voyez, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge et la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Le centurion, qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie-mère de Jacques le mineur, et de Joseph et Salomé, qui le suivit et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ensuite, le premier texte complémentaire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Sophonie, donc Sophonie 1, des versets 14 à 15. Et pour vous aider, ceux qui ont une petite Bible comme moi, c'est à la page 927. Sophonie 1, des versets 14 à 15. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche, je vais reprendre. Il est proche, le grand jour de l'Éternel. Il est proche. Il arrive en toute hâte, au bruit du jour de l'Éternel. Le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de courroux, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de dévastation et de ravage, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Ensuite, le deuxième texte complémentaire dans le psaume numéro 22. Alors dans le psaume 22, c'est plusieurs versets qui seront isolés, donc pour plus de fluidité, je vais les lire de manière continue. Donc au verset 2 et 3, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne me réponds pas. La nuit et je ne garde pas le silence. » Ensuite, les versets 7 à 9. « Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel le libérera. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Ensuite, les versets 17 à 22. Car des chiens m'entourent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. » Et ensuite, les derniers versets, versets 29 à 32. « Car le règne est à l'Éternel, il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui, plieront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. » Et maintenant, dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 10, des versets 19 à 22. Hébreux 10, des versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure.
Nous allons commencer par un petit exercice. Donc la première chose que nous allons faire, que je vais vous demander de faire, c'est de fermer les yeux. Donc fermez les yeux et vous allez m'indiquer où est ma main droite.
Vous pouvez les rouvrir.
Impossible si vous ne voyez pas. En fait, ma main droite, je l'ai mise du côté gauche.
Quand je vous ai dit cela.
En fait, nous sommes dans les mêmes ténèbres face à la compréhension des Écritures sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons qu'imaginer ce que Dieu veut nous dire dans cette parole. Et encore, notre imagination se base sur ce que nous avons déjà vu. Si vous n'aviez jamais vu d'être humain, si vous n'aviez jamais vu de main, et que je vous demandais de pointer le doigt sur cette main et de la suivre, vous ne pourriez même pas, en ne l'ayant jamais vue et en ayant les yeux fermés. Eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu et nous continuons à compter sur lui afin qu'il agisse dans nos cœurs ce matin encore. Nous continuons, comme Loïc l'a dit, dans l'exposition de l'Évangile selon Marc, qui est comme un journal quelque part de Pierre, avec qui Marc a eu beaucoup de contacts, qui a été écrit par Marc, qui était lui-même inspiré du Saint-Esprit. Et nous sommes arrivés à l'apogée, au point culminant de l'histoire de l'humanité, hein, avec la mise en croix de Jésus-Christ, qui sera ensuite suivie de sa résurrection. La dernière fois, nous nous étions arrêtés aux insultes que Jésus subissait sur la croix où il a été cloué. Et Marc décrit en fait le temps de Jésus sur la croix avec sobriété, relativement peu de mots, relativement peu d'explications. Nous avions aussi déjà vu cela la dernière fois. Et nous voilà face au verset le plus sombre de l'histoire de l'humanité. Ce sera d'ailleurs notre premier point. Ensuite, nous verrons une transition, un message de Jésus. Ce sera notre deuxième point. Ce qui nous amènera à ce que j'appelle le déchirement, qui sera notre troisième point. Et nous terminerons avec les témoins qui nous feront réfléchir. Donc d'abord, le verset le plus sombre de l'histoire. Donc si vous avez vos Bibles, gardez-les ouvertes dans Marc 15. Et vous voyez que le verset le plus sombre de l'histoire, c'est le verset 33. Il est écrit « À la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. » Un seul verset pour parler des trois heures les plus sombres de l'histoire du monde. « Il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Et j'aimerais ce matin nous aider un peu à comprendre ce que signifie cette courte description. Les affreuses ténèbres. Le temps de boire cette fameuse coupe que Jésus redoutait avec tant d'angoisse dans le jardin de Gethsémané. Dans la Bible, nous trouvons une notion très importante que les prophètes ont particulièrement expliquée. Il s'agit du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Et nous avions fait une série il y a quelques années ici sur les 12 prophètes, donc ce qu'on appelle petits prophètes, hein, les 12 prophètes dans l'Ancien Testament, qui en fait parlent particulièrement de ce jour de l'Éternel. On a eu l'exemple de Sophonie tout à l'heure, par exemple. Et dans ce jour de l'Éternel, nous avions même vu qu'il y avait toujours trois aspects quand on le voit dans son ensemble. Le premier aspect, c'est il y a jour de l'Éternel. Il y a J-L-R. Donc, le jugement, la libération et la restauration. Trois éléments qui font partie de ce jour de l'Éternel lorsqu'il est vécu dans son ensemble. Et dans l'Ancien Testament, on a des prototypes de ce jour de l'Éternel. Et un des premiers prototypes, on avait aussi vu ensemble, et vous pouvez aussi imaginer, c'est le déluge, un jour de jugement que Dieu a accompli et qui permettait déjà de voir que tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche étaient perdus, qu'il y avait un besoin d'entrer dans l'arche. Donc que c'était un jugement universel et sans exception pour ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche de Noé. Amos, qui est un des 12, annonce aussi clairement que le jour de l'Éternel ne sera pas un jour de lumière, mais de ténèbres. Ce ne sera pas un jour de lumière, mais un jour de ténèbres. Ce jour n'apportera pas le soulagement, le réconfort aux pécheurs, ce sera au contraire un jour de châtiment. Amos 5, 18 dit ceci, « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel ? Il sera ténèbres et non lumière. » Les ténèbres sont un signe de jugement et nous l'avons entendu aussi dans Sophonie tout à l'heure. Quand je vous parle de ténèbres, peut-être que quelque chose vous vient aussi en tête, comme cela m'est venu, c'est les ténèbres en Égypte en fait. En Égypte, Dieu exécutait son jugement sur le royaume qui représentait le mal. Et il y a même eu 3 jours de ténèbres. 3 jours d'épaisses ténèbres. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été dans un endroit complètement sans lumière. Comme lorsqu'on va par exemple au fond d'une grotte. Ça, moi j'aime bien au fond d'une grotte, j'aime bien éteindre toutes les lumières. Et puis ensuite au fond de la grotte, quand on a éteint toutes les lumières, je demande même aux gens, regardez votre main. Et puis on peut l'approcher jusqu'à quelques centimètres et on ne la voit pas. C'est comme si les ténèbres étaient palpables. On a l'impression de pouvoir toucher les ténèbres. Impossible de voir quelque chose dans ces ténèbres. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit ceci. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous. Jésus sur la croix a été fait péché. Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il a subi le jugement à notre place. Jésus sur la croix a été fait péché. Il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. En fait, il a subi le jugement à notre place. Et l'Éternel l'a vu comme une immense montagne de péchés, tous les péchés de ceux qu'il allait sauver, de ceux qui ont vécu avant lui et qui vivront après lui, comme ceux d'entre nous d'ailleurs qui croient en Jésus. Et ce jour-là, Jésus a payé le prix de nos péchés. Il a subi le jugement du jour de l'Éternel, afin que nous soyons libérés et que nous entrions dans la restauration. C'était 3 heures de ténèbres. Et je pense que c'était 3 heures de ténèbres comme il n'y en a jamais eu. Alors, certains osent dire que c'était une éclipse solaire. Bon, je me demande comment ces soi-disant scientifiques, qui veulent tout expliquer par des causes naturelles, arrivent à avoir une éclipse solaire en plein moment de pleine lune. Parce qu'en fait, la Pâque, c'était le moment de la pleine lune du printemps. De plus, une éclipse totale de soleil ne dure que quelques minutes. Comme l'a dit un commentateur, vouloir expliquer naturellement l'obscurité, par une tempête de sable ou une éclipse de soleil, ou vouloir limiter l'obscurité à la Palestine ou au monde méditerranéen est un non-sens. C'est vouloir rabaisser un événement unique dans l'histoire de l'humanité à un phénomène commun. Le soleil, en fait, est au plus haut. C'est midi, hein, cette heure qui est donnée ici à la sixième heure, c'est midi. Le soleil est au plus haut. Et Jésus est sur la croix depuis 9 heures du matin. Voilà 3 heures qu'il est suspendu entre ciel et terre, faisant face aux insultes, comme nous l'avons vu la dernière fois. Et tout à coup, vers midi, c'est les ténèbres. La lumière s'éteint. Ce n'est pas juste une absence de lumière, mais la présence des ténèbres pendant 3 heures. Et lorsque la lumière réapparaît, on voit bien que le soleil n'est plus à la même place qu'avant, qu'il est descendu dans l'horizon. Pas besoin de montre pour savoir que le temps a passé. Pendant ces 3 heures, notre bien-aimé Seigneur a bu la coupe de la colère de Dieu, de son juste jugement pour tous les péchés que nous avons commis. Il a expié nos fautes, comme nous le dit Jean, par exemple. Dans 1 Jean 1,2, il est dit « Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Expier, on fait de la théologie ce matin, quelques termes théologiques, mais c'est exactement ce qui se passe là. Expier veut dire ôter, effacer, ou même couvrir. Expier, ce serait pour le coupable endurer la peine qu'il a méritée. Mais pour l'innocent, pour Jésus, c'est endurer la peine que les autres ont méritée. C'est souffrir à la place des autres afin que la justice étant faite, le pardon puisse être accordé. Il est dit dans 1 Pierre 2,24, « Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » Alors l'expiation a pour origine la notion de la sanction. Le mal doit être puni. C'est un principe formulé dans la Bible à plusieurs reprises. Ça fait partie de la notion de la sainteté. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Mais Jésus a accepté de porter le poids de cette sanction, de cette condamnation. Il a accepté de porter le poids de cette sanction, de cette condamnation universelle. Et celui qui vient à lui par la foi, en fait, s'identifie à lui pour être puni en lui, si vous voulez, puni en lui, afin d'être pardonné en lui. Jésus a accepté de porter le poids de cette sanction, de cette condamnation universelle. Et celui qui vient à lui par la foi, qui croit que Jésus a vécu cela, s'identifie à lui-même pour être, pour dire, puni avec lui, afin d'être pardonné en lui. Et Jésus lui-même l'avait annoncé à ses disciples. Dans Marc 10, on avait déjà vu ce texte, dans Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » La menace qui pesait sur les hommes, c'était la mort, la perdition totale, la perdition éternelle. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. On ne peut pas comprendre la bonne nouvelle si on ne comprend pas la mauvaise nouvelle. Et Jésus donne sa vie en rançon pour racheter les hommes de cette mort. Ce que l'homme, en fait, était naturellement incapable de faire. Le Christ a donné sa vie pour le faire à sa place. Et le don à Dieu de sa vie sainte et divine a été le prix de rédemption, du rachat de nos vies esclaves du péché. Le prix de nos libérations. Jésus l'a payé pour nous. Je fais une petite parenthèse. Il ne l'a pas payé à Satan. C'est devant Dieu qu'il a payé. C'est Dieu qui juge ici. N'en déplaise à ceux qui aiment Narnia. Il y a un petit problème là-bas. Je referme la parenthèse. Dans tout l'Ancien Testament, nous voyons des sacrifices d'animaux qui, par leur sang versé, étaient en fait des préfigurations de l'expiation qui couvrirait vraiment le péché une fois pour toutes. Avant d'entrer dans le lieu très saint, derrière un voile, un grand rideau opaque, en fait, le souverain sacrificateur devait offrir des sacrifices. Il devait prendre le sang des sacrifices et il allait l'amener sur le couvercle ensuite, quand il entrait là-dedans, de l'Arche de l'Alliance, qui s'appelait le propitiatoire, pour rendre Dieu propice, en fait. C'est ainsi que cela se passait. Et le souverain sacrificateur restait à un moment là, le temps de la prière. Ensuite, il ressortait et ne pouvait plus entrer jusqu'à l'année suivante. Il fallait refaire des sacrifices. On pourrait dire que le sacrifice de l'animal, il préfigurait Christ juste pour un petit moment. Puis ensuite, il fallait refaire. Mais on pourrait dire que Jésus, durant ces 3 heures où il était en croix, a été sacrifié éternellement afin de ne plus refaire ce sacrifice. Il l'a fait une fois pour toutes. Hébreux 9, 27 nous le dit. Et c'est à cause de mes péchés, de tes péchés qu'il veut couvrir, qu'il a vécu ces 3 heures de ténèbres, qu'il a bu la coupe du jugement. Romains 3, 23 à 26, c'est très clair. C'est un texte qui est très connu, mais j'aimerais le relire parce que c'est vraiment, il explique ce qui se passe ici. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a montré sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça, c'était Romains 3, 23 à 26. Dieu pardonne à tous ceux qui croient à la valeur expiatoire du sang versé à la croix. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et là, j'ai quelques questions. Es-tu de ceux qui croient que c'est à cause de toi que Jésus a dû subir la juste colère de Dieu pour tes péchés? Crois-tu que le prix payé a été suffisant? On pourrait dire que les ténèbres étaient suffisamment épaisses pour y engloutir toutes tes fautes? Fais-tu confiance à Jésus? Et justement, Jésus, à la fin de ces 3 heures, donne un message. Il est sur la croix depuis 6 heures maintenant. Et les crucifiés avaient en principe beaucoup de peine à respirer. Et pourtant, Jésus s'écrie d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Désolé pour l'accent, hein, je pense que c'était un peu différent, mais vous comprenez l'idée. Hein, donc c'est notre deuxième point dans Marc 15. Vous pouvez reprendre vos Bibles, hein, Marc 15, verset 34. À la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui se traduit par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné. » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient « Voyez, il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir du vinaigre une éponge, le fixa à un roseau et lui donna à boire en disant « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Jésus est-il déprimé au point de lancer un cri qui manifeste qu'il a tout perdu? Eh bien, je crois que non. Et j'aimerais que nous le comprenions en réfléchissant à 2 choses. La première, c'est qu'il dit « mon Dieu ». Il n'est pas détaché de l'Éternel. Il n'a pas perdu tout espoir. Il n'est pas sans confiance en celui qui est souverain. Et cela me fait penser d'ailleurs à ce qu'on a vu jeudi soir, on était dans le livre de Job, et puis Job dit un texte qui est juste tellement fort, il dit « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. » Jésus, en fait, avait cette même attitude. « Même s'il voulait me tuer, je m'attendrai à lui. Il n'y a aucun autre secours, c'est mon Dieu. » Et la deuxième raison, c'est que cette expression « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» fait référence en fait à un psaume. Les Juifs ne disaient pas « prenez le psaume 23 ». Non, ils disaient « prenez le psaume, l'Éternel est mon berger ». Voilà. Nous, on dit psaume 23. Bon. Non, ils disaient, l'Éternel est mon berger. Ils disaient pas, prenez le psaume 22. Ils disaient, prenez le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et faire mention du psaume 22, ici, c'est indiquer ce que Jésus vit. Il est en train d'indiquer ce qu'il vit en disant cela. Il indique un psaume. Il indique ce qu'il vit, ce qu'il accomplit à la croix, la souffrance la plus profonde. Il l'a vécu sous ce jugement terrible, ces 3 heures de ténèbres. Mais ce n'est pas la fin du psaume. Parce que il ne termine pas par la mort, ce psaume. Il termine en disant « La postérité lui rendra un culte. On parlera du Seigneur à la génération future. Il viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. » Jésus sait qu'il arrive au bout de sa mission. Il poussera d'ailleurs un grand cri pour bien montrer qu'il ne meurt pas, par asphyxie dans les griffes de cette crucifixion. Non, c'est lui qui décide du moment de sa mort. Et il donne sa vie. Personne ne la lui prend. C'est vrai qu'ici, il est parlé de gens qui parlent d'Élie. Est-ce qu'il va venir? Bon, juste quelques petits mots par rapport à ça. Donc, on pourrait dire qu'il y a trois raisons qui pourraient motiver ce qui se passe ici avec cette notion d'Élie. La première, c'est que beaucoup de Juifs sont superstitieux. Et selon la tradition juive, Élie, qui n'était pas mort, qui était parti dans un char de feu, hein, si vous connaissez l'histoire, eh bien, en fait, il pensait qu'il pouvait venir aider tous ceux qui passaient par un moment de grande souffrance. Donc, c'est une des raisons pourquoi ils auraient pu dire ça. Une deuxième raison, c'est en fait des gens qui se moquent de Jésus. Parce qu'en fait, ils savent qu'avant la venue du Messie, Élie devait venir. Ils disent, bon, il a dit qu'il était le Messie, il en croit, donc il faut juste qu'il appelle Élie pour qu'en fait, il vienne avant qu'il puisse être appelé le Messie. Enfin, voilà, c'est de nouveau de la moquerie. Ou bien, ils n'ont pas bien compris ce que Jésus a dit. Et ils sont curieux, ils aimeraient bien savoir ce qui va se passer, en fait. Et ils ont sûrement été assez impressionnés des ténèbres, des 3 heures de ténèbres qui se sont passées. Et là, ils étaient en train de se dire, voilà, le spectacle continue, qu'est-ce qui va arriver? Quelle que soit la raison qui fait qu'il parle d'Élie, Jésus ici fait allusion à la parole de Dieu, au psaume 22. Ça n'a rien à voir avec Élie. Quelle que soit la raison pourquoi les gens ont pensé ça. Et cette situation nous montre que si Dieu n'éclaire pas l'intelligence, n'ouvre pas les yeux du cœur, en fait, il n'est souvent pas possible de comprendre. Il comprend mal. Il parle d'Élie? Non, non, il parle du psaume 22 ici. C'est vrai que le fait que Jésus n'appelle pas Dieu Père, et c'est l'unique fois dans le Nouveau Testament qu'on a cette situation ici, le fait que Jésus n'appelle pas Dieu Père nous indique une souffrance, un poids, un jugement immense. C'est vrai. Dans cette ténèbre qu'il a vécu, quelque chose que nous ne vivrons jamais parce qu'il l'a vécu à notre place. Il a vécu ce jugement à notre place. Et en Christ, nous pourrons toujours appeler Dieu notre Père. Il n'y aura pas de moment où nous dirons, nous ne pourrons plus dire notre Père et nous dirons simplement mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non. Jésus a dit cela pour faire mention au psaume 22, mais c'est vrai que nous pouvons aussi comprendre que Jésus a vécu un temps de jugement, un temps où la colère de Dieu s'est déversée sur lui, que nous ne vivrons jamais pour ceux qui sont en Christ. Alors que l'Éternel agisse dans nos cœurs pour nous rendre attentif et que nous comprenions ce qu'il veut nous dire dans sa parole. Hein, quand Jésus dit le début du psaume, c'est comme si je vous disais « Car Dieu a tant aimé ». Alors celui qui n'est pas en Christ et qui est même un peu taquin dira « Ah, Dieu a une tante aimée ». Attends voir qu'elle arrive et qu'elle nous dise ce qu'elle pense. Alors que celui qui connaît l'évangile continuera simplement la phrase. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Enfin, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus cite le psaume 22 sur la croix, C'est pour que nous allions jusqu'à la fin du psaume et que nous ne restions pas accrochés avec Jésus à cette croix, mais que nous soyons encouragés à voir la suite. Nous ne restons pas sur le regret du péché, qui est juste, qui est un point de départ, mais qui est un point de départ pour avancer. Traversons le voile qui maintenant est déchiré. Approchons-nous de Dieu avec confiance, à celui à qui nous voulons rendre un culte, comme c'est écrit à la fin du psaume d'ailleurs, celui qui nous donnera sa justice et nous serons son nouveau peuple. Tout ça, vous le trouvez à la fin du psaume. Et cette ouverture du voile est justement ce qui est arrivé à la mort de Jésus. C'est notre troisième point, le déchirement. Verset 37. « Mais Jésus jeta un grand cri !»
Si tu dormais, ça t'a réveillé. Hein? Non, tu ne dormais pas. Puis il expira.
Marc ne donne pas tous les détails. On a d'autres éléments dans les autres évangiles. Vous avez d'ailleurs derrière votre petit papier tout le déroulement en prenant tous les évangiles. Mais ici, il souligne simplement que Jésus jeta un grand cri puis expira. Verset 38. Le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. On pourrait dire que le cri de Jésus déchire l'air et au même instant, non loin de là dans le temple, le voile qui empêchait l'entrée dans le lieu très saint se déchire de haut en bas, au même moment. Ce qui se passe dans le temple, en fait, est une manifestation divine. Jamais un voile, comme je dis qu'on appellerait plutôt un rideau actuellement, parce qu'un voile, on pense, c'est tout fin, etc. C'était bien épais, bien solide, hein? Eh bien, jamais un rideau tel que cela ne se déchire par le haut, il est tenu. Non. C'est une manifestation divine. C'est un symbole qui indique l'accès à Dieu qui est maintenant ouvert en Christ. L'accès à Dieu qui est ouvert en Christ. Car le sacrifice infini, on pourrait dire, a eu lieu. Le sang innocent a été versé, la tête du serpent a été écrasée. C'est un symbole d'accès à Dieu qui est maintenant ouvert en Christ. Jusqu'à la mort de Jésus, et particulièrement d'ailleurs ce jour de la Pâque, des animaux étaient sacrifiés, rappelant qu'un agneau avait donné sa vie pour les aînés en famille, dans les familles en Égypte. D'ailleurs, cet aîné des familles en Égypte était quelque part le représentant, parce que les Hébreux, à l'époque, n'étaient pas meilleurs que les Égyptiens. Si Dieu les a épargnés, c'est à cause de l'agneau qui a été sacrifié. Cet agneau préfigurait celui de qui Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et au moment où les agneaux pascals devaient être sacrifiés, Jésus donne sa vie, lui, l'agneau de Dieu, ce même jour. Et son sacrifice a été reçu, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, et chacun a un accès au lieu très saint au travers de son sacrifice. Nous verrons que non seulement son sacrifice a été reçu, mais qu'il a été accepté et agréé. C'est la raison pour laquelle il est ressuscité. Mais cela, nous le verrons par la suite. Pour l'instant, comprenons que Hébreux nous explique exactement ce qui s'est passé dans Marc 15, 38. Si je vous relis le texte de Hébreux 10, 19 à 22, qu'on a lu tout à l'heure, il est dit ceci. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Vous savez, si des fois on hésite à nous approcher de Dieu, c'est souvent parce que tout simplement nous oublions que le sang de Christ nous donne l'accès à Dieu. Rien d'autre. C'est le sang de Christ qui nous donne accès et que son sang est suffisant et qu'il nous pousse, en pensant à son œuvre, à nous éloigner du mal. N'hésitons pas à nous approcher de Dieu et à reconnaître qui est Jésus. N'hésitons pas. Il a tout payé. N'hésitons pas à reconnaître qui est Jésus. Et justement, Marc continue en rapportant les paroles de témoins. Rappelons-nous que Marc écrit sûrement l'évangile à des personnes qui habitent à Rome. Et voici ce qui est dit dans Marc 15, les versets 39 et suivants. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de Jose et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le centurion, en fait, est un homme habitué aux exécutions. Il avait dû en avoir beaucoup devant lui. Il avait même dû voir souvent des gens qui se débattaient alors qu'il les mettait en croix, ceux qui juraient, qui se défoulaient sur les soldats, et avec des paroles blessantes, haineuses. Et oui, ceux qui travaillent encore aujourd'hui dans le domaine de la police, par exemple, ben, il y a des fois des gens qui se défoulent. Il en avait vu beaucoup qui haletaient, qui cherchaient à respirer, qui ne parvenaient plus à reprendre leur souffle après des heures ou parfois même des jours d'agonie, où souvent même ils sombraient dans le coma avant de mourir. Mais rien de tout cela avec Jésus. Jésus s'est laissé clouer sur la croix. Il a parlé avec bienveillance aux brigands à ses côtés. Il a même demandé à Dieu de pardonner à ses bourreaux, car il ne savait pas ce qu'il faisait. Son centenier était là à côté. Il a entendu tout cela. Il a vu comment Jésus agissait. Il a aussi vu que Jésus, même après 6 heures sur la croix, parlait d'une voix forte. Et que même juste avant de mourir, il a poussé un grand cri. Luc nous rapporte d'ailleurs qu'il a dit, juste avant de mourir, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il a rendu son dernier souffle. Le centurion a vu et a compris que c'est Jésus qui a choisi le moment de sa mort. C'est Jésus qui a choisi le moment de sa mort. Il a donné sa vie, personne ne lui a ôté la vie. Il a donné sa vie, personne ne lui a ôté la vie. Et un fait assez intéressant, alors ça fait loin, hein, donc quand on a commencé l'évangile de Marc, donc il faut revenir tout au début de l'évangile de Marc, c'est assez intéressant comment l'évangile commence. Vous savez comment l'évangile commence? Bon, allez regarder. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et vous savez que jusqu'à ce centenier, aucun homme dans tout l'évangile de Marc n'a confessé Jésus comme étant fils de Dieu de manière positive. Il y a eu les démons, une fois. Il y a eu, c'est vrai, Caïphe qui l'a suggéré pour le condamner. Mais ce centenier ici, centenier romain, est le premier qui, en fait, dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est sûrement pas conscient de tout ce que cela signifie. Nous avons, nous, tout le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre cette christologie. Par contre, il était convaincu que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Il était convaincu que Jésus n'était pas un homme comme un autre. C'était certain. Celui qui était condamné pour être le roi des Juifs était certainement le Fils de Dieu, comme le souverain sacrificateur l'avait dit pour l'accuser. Et à Rome, lorsque l'évangile de Marc était lu, cela devait faire en fait une sensation. Hein ? Un Romain qui reconnaît Jésus comme Fils de Dieu, alors qu'il avait été proche de lui pendant toutes ces dernières heures. Alors qu'en plus, les Romains, ben, les fils de Dieu, c'était plutôt les empereurs. Et il ne fallait pas dire trop qu'il y en avait d'autres.
Mais Marc ne s'arrête pas là. Il parle encore des femmes qui regardaient de loin. Elles suivaient Jésus, elles le servaient, pour plusieurs depuis la Galilée, qu'il avait accompagné, et d'autres étaient même venues avec lui depuis Jérusalem. Alors c'est vrai que les femmes n'étaient pas considérées comme fiables pour le témoignage par les responsables du peuple cette époque-là. Voilà, les femmes n'étaient pas considérées comme fiables pour le témoignage par les responsables du peuple à cette époque-là. Et pourtant, c'est celle que Dieu a choisie pour être les témoins oculaires de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la résurrection. Ce n'est pas les disciples. Et pourtant, ce sont elles, ces femmes, que Dieu a choisies pour être témoins oculaires de la crucifixion, de la mise au tombeau et de la résurrection. En fait, c'est grâce à elles que nous avons les informations dans les évangiles, dans ces moments où les disciples n'étaient pas présents. Il est intéressant de remarquer qu'au travers de tout le Nouveau Testament, nous trouvons la grâce de Dieu qui le glorifie, cette grâce qui le glorifie, par des femmes. Et combien Dieu bénit l'Église au travers elles. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le péché et la mort débutent par la transgression de la femme. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus né d'une femme, la vie et l'immortalité mis en lumière par cette naissance miraculeuse. Dans l'Ancien Testament, nous voyons souvent des femmes être un obstacle ou un piège pour l'homme. Je ne vais pas pouvoir vous expliquer toutes les histoires, mais je vous donne ici quelques exemples. Ève, les femmes avant le déluge, les histoires de Sarah, Rebecca, Rachel, Dalila, Bathsheba, Jézabel sont toutes des exemples pénibles. Dans le Nouveau Testament, nous voyons plutôt généralement des femmes être une aide, une assistance à la cause de la vraie foi. Élisabeth, Marie, Dorcas, Lydie, les femmes nommées par Paul dans Romains sont toutes des encouragements. Et le contraste est saisissant entre l'Ancien et le Nouveau Testament et, à mon avis, sûrement intentionnel. C'est l'une des nombreuses preuves que la grâce est plus abondante sous l'Évangile que sous la loi. Et un commentateur dit ceci, « Cela semble nous enseigner que les femmes ont une place importante dans l'Église de Christ, une place qui doit être assignée et qu'elles doivent prendre. » Il y a une grande œuvre que les femmes peuvent faire pour la gloire de Dieu sans avoir besoin de prendre publiquement autorité. On peut dire ça, c'est le seul fruit défendu. Heureusement, heureuse est la communauté dans laquelle les femmes le savent et le vivent. Nous arrivons à la conclusion. Qu'allons-nous retenir et qu'allons-nous vivre ? Des fois, je me dis, je vais prendre un micro, je vais passer dans les rangs. Vous me demandez, qu'avez-vous compris ? Qu'est-ce que vous allez prendre avec vous ? N'ayez crainte, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Vous pouvez rester tranquille. Mais on va reprendre quand même les quatre éléments qu'on a vus. Le verset le plus sombre de l'histoire de l'humanité devrait nous aider à comprendre la noirceur de notre péché et l'horreur de celui-ci et que nous devrions chercher à le fuir et en être délivré en allant à la croix. Chaque fois qu'on le voit, chaque fois qu'on rencontre le péché, allons à la croix. D'ailleurs, même si c'est le péché de quelqu'un d'autre, allons à la croix. Deuxièmement, le message de Jésus qui cite le psaume 22 devrait nous encourager à connaître la parole. Pour que si on vous dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Eh bien, on n'est pas en train de se dire « est-ce qu'il parle d'Élie ? Est-ce qu'il parle de... » On dira, mais c'est psaume 22, c'est évident. Et tout le reste vient avec. Hein, comme le car Dieu a tant aimé le monde, etc. Et que cela nous aide aussi à saisir que Jésus a été abandonné au jugement et que celui qui croit en lui ne le subira pas. Troisièmement, le déchirement devrait nous aider à comprendre qu'en Jésus, nous avons accès auprès de Dieu. La porte a été ouverte et nul ne pourra la fermer avant le jour du jugement final. Et dernièrement, les témoins devraient nous pousser à reconnaître qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Et à nous encourager à la fidélité dans ce qu'il nous a appelés à vivre avec un encouragement
particulier aussi aux femmes. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, même en fermant les yeux, nous ne pouvons pas imaginer les ténèbres dans lesquelles Jésus a vécu ce jugement, cette colère qui a été déversée sur lui. J'aimerais, Seigneur, te prier que par ton esprit, nous puissions être saisis et comprendre que c'est pour moi, pour nous qui croyons que Christ a payé le prix, pour tous ceux qui croiront encore. Et nous te prions, Seigneur, que beaucoup puissent saisir ce message merveilleux de ce que Christ a pris sur lui, la colère, la juste colère qui nous était destinée. Seigneur, nous te le prions pour nous, maintenant, aussi cet après-midi, ce soir, que beaucoup puissent être saisis par ta grâce et comprendre que Christ a tout payé. J'aimerais, Seigneur, te prier de nous aider à comprendre aussi que le voile a été déchiré. Nous pouvons venir vers toi. Oh, non pas de n'importe quelle manière, mais en Christ. Avec cette joie de savoir que il nous donne cet accès auprès de toi. Nous voulons, Seigneur, te respecter. Nous ne voulons pas vivre n'importe comment. Nous sommes heureux de pouvoir être libérés de la tyrannie et de l'esclavage du péché. Et nous te demandons pardon pour les fois où encore ce péché agit dans nos cœurs. Et nous aspirons à cette restauration. Nous sommes conscients, Père, que ce jugement qui est tombé sur Christ peut encore tomber sur des personnes. Toutes celles qui ne se tournent pas vers Christ. Nous te prions, Seigneur, d'avoir à cœur ceux qui sont autour de nous, afin qu'ils ne vivent pas ce jugement terrible, qui amènera non pas à une libération, à une restauration, mais qui amèneront à une éternité sous ta colère. Seigneur, c'est insoutenable, mais nous te prions de nous aider à annoncer ta parole, annoncer la bonne nouvelle de la libération et que Christ soit réellement le centre de nos vies. Pour tout homme ici et pour toute femme, merci parce que tu as aussi rétabli, que tu as encouragé les femmes. Tu vois combien aujourd'hui on veut mettre les femmes en avant et c'est une bonne chose de les mettre proche de toi. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.